13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis ravi d'être avec vous jusqu'à 16h pour partager et écouter vos expériences de vie comme chaque jour. À mes côtés, ma camarade Ombline. Bonjour Ombline.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Pendant cette heure, nous parlons de vous, de votre vécu, de votre quotidien, car vos histoires nous intéressent. Alors, être parent, c'est éduquer son enfant, le conseiller, le guider aussi. Mais jusqu'à quel point peut-on décider pour notre enfant ? Certains parents préfèrent laisser un libre arbitre total, souvent partisan du fait que c'est en faisant ses propres erreurs que l'on grandit. D'autres, au contraire, sont plus interventionnistes et veulent un droit de regard sur les études, sur les fréquentations, les petits amis. Et entre les deux, on tâtonne, on discute. À partir de quand faut-il laisser les enfants autonomes ? Quelles sont les bonnes limites à avoir avec son enfant, avec ses décisions ? Parents, quel libre arbitre pour nos enfants ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, nous sommes là pour vous écouter.
Oui, on écoute les parents, on écoute les enfants, les anciens enfants, 39-21, 50 centimes la minute, vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Patrice sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Patrice.
Bonjour Olivier, bonjour Romblic.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Patrice ?
Alors, je vis dans la région centre, Eure-et-Loir, Chartres, et j'ai 46 ans.
D'accord. Alors, vous êtes le repère de trois enfants. Ils ont entre 4 ans et 17 ans. L'éducation, j'imagine, est très différente selon l'âge de vos enfants. Vous avez l'impression que les plus petits n'ont pas les mêmes envies que les grands au même âge ?
Alors, les envies ne sont pas les mêmes, et puis on va dire que la question du libre-arbitre en fonction de l'âge n'est pas le même non plus. Mmh. Voilà, puisqu'on ne peut pas se positionner de la même manière avec une petite fille de 4 ans. Voilà, c'est la prise en compte du degré de maturité aussi de l'enfant, qui n'est pas forcément en lien avec l'âge, hein, parce que la maturité, ça s'acquiert avec l'expérience de la vie, avec voilà, ce qu'on a vécu. Donc, on le prend en compte avec mon épouse.
Et justement, comme je l'évoquais en début d'émission, vous êtes plutôt partisan de laisser vos enfants aller et commettre leurs propres erreurs pour qu'ils grandissent plus vite ?
Alors, ça dépend des situations, en fait, mais nous, on n'est pas dans l'interventionnisme à tout prix.
Oui.
On a un degré d'exigence par rapport à la scolarité. Mais on sait aussi que pour pouvoir se construire, il est nécessaire de faire un certain nombre d'erreurs. Et c'est ce qui permet justement à l'enfant d'être confronté à un certain nombre de problèmes, de pouvoir après se réajuster. Donc le rôle des parents, c'est aussi de l'aider face aux difficultés, à l'aider à trouver des solutions. Voilà. Donc nous, notre champ d'action, il se situe là. Mais moi, c'est par rapport aussi à une éducation que j'ai eue avec mes parents qui m'ont laissé faire des choix quand j'étais plus jeune. Parce que mes parents, ma mère surtout, elle n'a pas eu beaucoup de choix dans sa vie. Elle en a souffert. Donc du coup, moi, ils m'ont toujours dit, tu dois choisir le métier qui te plaît, tu dois faire les études qui te plaisent. Ce qui fait qu'effectivement, je n'ai pas suivi, on va dire, le cheminement familial qui aurait pu être prédestiné quoi, à la reprise d'une entreprise, etc.
Alors justement, intéressons-nous d'abord à votre fils de 9 ans. Vous dites qu'au niveau des activités, vous lui offrez la possibilité de choisir. Il a souvent émis ses propres souhaits et vous l'avez suivi à chaque fois ?
On l'a suivi à chaque fois. Par contre, ce qu'on lui impose, c'est qu'à chaque fois qu'il s'engage dans une activité, il doit la tenir jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est une obligation parce que voilà, il faut qu'il s'investisse. Après, il y a eu ce week-end par exemple, il avait une compétition de gymnastique. Si on avait été dans le libre arbitre total, le laisser décider, il n'y serait pas allé. Là, on lui a imposé le fait d'y aller parce qu'on savait qu'on le mettait pas en danger. Par contre, l'idée c'était aussi qu'il affronte ses peurs, qu'il se rassure.
Oui.
Et puis finalement, il en est ressorti de cette expérience. Alors nous, on lui demandait pas de finir premier, hein, c'était pas le but. Mm-hmm. C'était au moins qu'il s'essaye à une compétition. Et il est revenu extrêmement content. Et puis du coup, il est demandeur. Donc si on l'avait écouté, il n'y serait pas allé.
Oui.
On aurait continué à maintenir les craintes. Et donc là, voilà, on l'a contraint, on l'a forcé. On ne lui a pas laissé le choix.
C'est là où on voit que le rôle des parents est aussi de bien étudier la distance qu'ils peuvent mettre dans les décisions justement de leur enfant. Lorsque, en fait, votre fils de 9 ans prend des décisions, généralement vous allez dans le même sens. Vous pensez que cela permet de l'autonomiser quelque part ?
En fait, c'est un dialogue. Nous, on est beaucoup dans le dialogue avec les enfants. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de l'amener à réfléchir. Quand il nous dit « je ne veux pas faire la compétition, j'ai peur », l'idée, c'est de comprendre ce qui lui fait peur. Ouais. On n'essaye pas forcément de rassurer, parce que plus on essaye de rassurer, plus les craintes, elles augmentent. C'est aussi beaucoup d'échanges avec le club de gym, avec les éducateurs sportifs qui l'encadrent, et de lui dire « voilà, là, notre fils, il en est là ». Voilà sur les points sur lesquels il faut appuyer. Et puis ensuite, le maître mot, c'est de lui dire « mais nous, on sait où on t'envoie, on te mettra pas en danger. Donc on est là pour te protéger, donc fais-nous confiance ». Et du coup, il y est allé, et puis ça s'est bien passé. Donc voilà, il y a une relation de confiance aussi. Et puis voilà, on est les parents, donc on est quand même décideurs à la base.
Oui, oui, oui. Mais vous dites qu'il est assez craintif, hein, je crois. Est-ce que vos interventions aussi, eh bien, elles sont absolument nécessaires dans le cas de cet enfant de 9 ans ?
Oui, là c'était important d'intervenir, parce que l'objectif, c'était vraiment de lever les peurs, lever les craintes, et de lui montrer que la décision qu'on prenait à ce moment-là, pour lui, n'allait pas le mettre en difficulté et n'allait pas le mettre vraiment en péril. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on percevait les choses. Après, si vraiment on s'était rendu compte que c'était trop compliqué, trop difficile sur place, on aurait réajusté, on aurait pris d'autres décisions, mais c'est pas le cas. Donc on s'est dit, bon, bah, finalement, on a fait le bon choix.
Et il ne le regrette pas. Vous restez en ligne avec nous, Patrice. Nous allons continuer à parler de la façon dont vous laissez le choix ou non à vos enfants. Et notamment, on va parler de votre fille de 18 ans.
Europe 1. Jusqu'à quel point laissez-vous votre enfant décider ? Vous vous contentez de le conseiller ou vous l'aiguillez fortement ? Le 39-21 pour témoigner. On lit vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Premier jour du reste de la vie de vos enfants, quand ils ont commencé à décider pour eux quel chemin emprunter, comme le chante Étienne Dao, vos enfants suivent-ils leur instinct et leurs envies, ou c'est plutôt vous ? 39-21 pour nous raconter comment ça se passe à la maison. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Patrice qui nous parlait de son jeune fils de 9 ans. Et justement, dans ce choix de l'essentiel qu'évoquait Étienne Dao, nous allons parler de votre fille, Patrice, qui a 18 ans. Là, ça n'est pas la même problématique qu'avec son frère, que vous abordez avec elle. À un moment, elle travaillait très peu. Comment est-ce que vous avez appréhendé ça avec elle ?
Nous, ce qu'on souhaitait, sa maman et moi, puisqu'on est à l'issue d'une première réunion, c'était effectivement qu'elle aille vers un cursus général.
Oui.
Donc du coup, il y a eu beaucoup, sa maman notamment, puisque je suis séparé donc de sa maman, faisait son travail de parent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle mettait la pression pour qu'elle travaille, etc., mise en place de différentes choses, le soutien scolaire, voilà, tout ce qu'on peut aussi trouver comme stratégie pour amener l'enfant à travailler.
Oui.
Et ça n'a rien changé, elle n'a pas pu se travailler, ce qui montre bien, voilà, que pour elle, l'école était absolument pas du tout, le fait de pas travailler à l'école était absolument pas du tout un problème pour elle. Donc il y a un moment, j'ai dit à sa mère, mais il faut qu'on arrête, ça sert à rien, on trouve pas de solution. Il faut la confronter à un principe de réalité, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, ça lui pose problème. Donc, elle a été orientée vers une filière professionnelle, bac pro mode, voilà, qu'elle a choisie. Par contre, là, on l'a laissé choisir parce que c'était important, en tout cas, si elle raccrochait une scolarité, qu'elle puisse faire ce choix et l'investir.
Oui.
Et d'ailleurs, elle a eu de très, très bons résultats. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui, voilà, d'être sur l'instruction pour aller rejoindre... tenter de rejoindre une fac de lettres. Donc elle sait que ça va être difficile.
Oui.
Et je pense qu'au fond d'elle, elle regrette aujourd'hui de pas s'être donné les moyens d'avoir travaillé plus au collège pour pouvoir accéder justement plus facilement, on va dire, au niveau qui peut être demandé en fac de lettres. Mmh. Voilà. Mais il a fallu faire un choix à un moment. Moi, j'ai fait le choix, effectivement, de dire j'arrête parce que je vais pas tendre la relation avec ma fille à dégrader plus. Ça fonctionne pas, donc il faut l'admettre. Après, il n'y a pas...
Vous n'avez pas certains regrets, parce que vous l'avez, au final, vous l'avez laissé faire comme pour la laisser justement être confrontée à ses propres erreurs. Et pour le coup, les erreurs, elle en a fait et ça l'a conduit quand même à ce bac pro en mode. Vous dites qu'aujourd'hui, elle veut réintégrer une fac de lettres. Est-ce que vous, vous nourrissez certains regrets ?
Non, parce que je suis content du parcours. Elle n'a pas arrêté ses études,
oui.
Donc c'est quand même déjà une bonne chose. Il y a eu un moment, elle voulait changer de filière, aller vers une filière bac pro sanitaire. Là, avec sa mère, on a été d'accord. On a dit non, hors de question, tu as commencé ça, tu vas jusqu'au bout, tu ne commences pas à changer à droite, à gauche. Parce qu'elle se cherchait, elle voulait faire éducateur. Mmh. Et on lui a dit non, hors de question, tu as commencé cette formation, tu vas jusqu'au bout. Après, c'est une formation qui se passait très bien. J'ai un cousin qui est prof avec qui j'ai pas mal échangé et puis ça l'a réconcilié aussi avec la scolarité. Donc c'était l'objectif. Après, quel que soit le chemin qu'elle a pris, l'objectif c'est qu'elle se réconcilie avec les études. Alors oui, elle a pas le niveau d'un bac généraliste qui va sortir d'une filière lettres pour aller vers l'université. Après, elle s'est donné les moyens malgré tout, puis sa mère l'a beaucoup soutenue aussi, et moi de même, pour qu'elle puisse avoir des résultats, on va dire même presque excellents au niveau de sa terminale notamment.
Oui.
Après, elle verra ce que ça donne aussi aujourd'hui d'être à l'université, d'être à la faculté, et puis d'être confrontée à des gens qui n'ont pas le même cursus, à des gens qui n'ont pas le même parcours. Enfin, ça, pour moi, ça fait aussi un petit peu écho à la résilience dont parle Boris Cyrulnik. Voilà.
Oui, complètement, hein, parce qu'elle n'a pas la même maturité non plus aujourd'hui, donc peut-être qu'à certains moments de leur vie, de leur construction, nous devons être un peu plus interventionnistes en tant que parents. Et puis là, vous parlez de faculté, hein, d'une envie d'aller en fac de lettres. J'ai envie de dire que cette jeune fille, aujourd'hui, elle a dû gagner en maturité et en envie, comme vous le soulignez. Donc, en fait, là, les éléments ne sont plus du tout les mêmes que lorsqu'elle ne faisait rien à l'école.
Voilà, et puis c'est pas à 17 ans. Elle a 17 ans, donc il y a une certaine maturité malgré tout. On est obligé aussi, face à un adolescent de 17 ans, d'être beaucoup plus dans le dialogue. Je dis pas que ça a toujours été consensuel, hein. Il y a des moments où c'est accroché, on l'a bousculé un peu, on lui a dit là, ce que tu fais, ça va pas. C'est par rapport à ce qu'elle souhaitait.
Mmh. Est-ce que vous diriez que l'éducation que vous donnez à vos enfants aujourd'hui, c'est celle que vous avez vous-même reçue? Et comment est-ce que vous me la décririez, cette éducation que vous avez reçue? Vos parents étaient comment?
Non, mes parents étaient stricts.
Stricts.
Donc, mes parents, mes grands-parents, bon, eux, c'est tiré de l'éducation de leurs parents aussi. Hein. C'est, voilà, mes parents sont des années 30.
Mais ça s'entend un peu, vous avez gardé un peu de ce côté, alors pas strict, hein, je veux dire, mais en tout cas, vous avez gardé ce côté de trancher quand vous sentez que cela va être bon pour votre enfant et donc d'être interventionniste.
Oui, disons que l'éducation, elle se fait à deux,
oui.
Déjà, pour commencer. Donc, moi, je pense que je suis assez dur au niveau de l'éducation. Enfin, c'est ce que me dit mon épouse, et je pense qu'elle n'a pas totalement tort. Mon épouse est dans des positions qui vont être parfois un petit peu plus souples. Voilà. Après, c'est un dialogue entre nous deux, où on essaye de trouver les choses, sur les points sur lesquels on se met d'accord.
Trouver un équilibre.
Voilà. Il y a un équilibre à trouver, il y a des concessions à faire, il y a eu des moments avec mon ex-femme, j'ai eu des désaccords. Soit je partais au combat en saisissant un juge aux affaires familiales pour faire valoir mon droit, pour faire valoir un certain nombre de choses, soit je laissais passer, tant pis, et puis je me focalisais sur l'intérêt de mon enfant.
Voilà, c'est de toute façon toujours mieux dans ce type d'affaires de se focaliser sur les intérêts de l'enfant, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Patrice, d'avoir pris de votre temps cet après-midi pour nous raconter votre histoire. Dans quelques instants, nous accueillerons Anne Bacchus. Elle est psychologue de famille et auteur du livre « Traitez-les comme des mômes », disponible aux éditions Marabout.
Et Fatma nous écrit sur Facebook « Il y a 25 ans, j'aurais dû écouter ma mère et tenir tête à mon père. À mes 18 ans, je me suis mariée pour les traditions. » Europe 1. Vous faites comme Patrice, vous êtes peu interventionniste, en tout cas vos enfants, vous les laissez faire leur propre choix, ou comme Fatma, vous regrettez d'avoir laissé vos parents décider pour vous. 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Personne d'autre que toi, dit Grégoire, qui choisit. C'est votre enfant qui décide. Vous lui laissez une totale autonomie, quitte à le laisser faire ses propres erreurs. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Venez partager votre expérience au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Anne Bacchus, psychologue de famille et auteure du livre « Traitez-les comme des mômes pour une éducation dans le bon sens ». Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi. Alors le titre de votre ouvrage est assez explicite, traitez-les comme des mômes. Qu'est-ce que cela veut dire exactement de traiter ses enfants comme des mômes, comme vous dites ?
Ça veut dire que dans notre société, on oublie un peu ce que c'est qu'un enfant de 3 ans, qu'un enfant de 6 ans, qu'un enfant de 15 ans.
Oui.
Et qu'un môme, ça veut dire que souvent on les prend pour des trop grands, on leur donne des responsabilités qui ne sont pas de leur âge, ou on les prend pour des éternels bébés, on les couvre, on les surveille à un âge où à leur âge on était déjà autonome. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien, comment, parfois on leur parle comme à des copains. Voilà, vraiment savoir quelle est la place de l'enfant. J'ai aussi écrit sans façon de rendre son enfant autonome, qui est de même nature, c'est-à-dire à quel moment effectivement ouvrir les ailes, à quel moment les laisser partir et quel accompagnement faire en fonction de leur âge, bien entendu, et aussi de leur tempérament, parce que, comme disait Patrick tout à l'heure, il y en a qu'on incite à partir, et puis il y en a qui veulent partir trop tôt, il faut leur mettre les risques en tête, quoi.
En tout cas, dans cet ouvrage, vous donnez de bons conseils, je trouve, pour adopter la bonne distance entre leurs envies à ces enfants et l'éducation que les parents doivent leur donner. Alors, quels sont ces conseils que vous donnez, en tout cas les meilleurs? Quelles questions doit-on se poser lorsqu'on est parent et que l'on doit établir cette bonne distance?
Alors, on est sans arrêt, en fait, entre l'incitation à oser, les envoyer de l'avant, les laisser aller de l'avant, et puis notre rôle qui est de les protéger. En fait, pendant très longtemps, les parents étaient devant et les enfants derrière. Et puis maintenant, c'est les enfants qu'on met devant, parce que c'est eux les plus importants dans la famille, dans la société, etc. Mais le problème, c'est que du coup, ils sont pas préparés à ça. Ils sont quelque part mis en danger par cette surexposition. Et c'est à nous, parents, de savoir vraiment à quel moment les mettre en avant, à quel moment les protéger, comment les informer, comment leur mettre des tuteurs, des structures intérieures pour qu'ils puissent faire face aux difficultés. Je vais prendre un exemple tout simple, l'erreur. Il y en a qui ont peur de l'erreur, qui ont peur du coup de... Moi, j'ai des enfants de 7 ans, 8 ans à mon cabinet,
oui,
qui n'osent pas le lendemain aller à l'école parce qu'il y a une dictée, etc. Donc,
oui,
ils ont peur de se tromper. Mais ce qui est notre rôle de parents, c'est un, de leur dire que c'est pas grave, mais surtout de leur montrer qu'il y a toujours un plan B, qu'il y a toujours il y a deux faces à une médaille. Vous voyez, par exemple, la vie nous dit non tout le temps, on se trompe tout le temps, mais c'est pas grave, on retombe, et ou alors on trouve un autre chemin, ce chemin-là est fermé, on va en prendre un autre, et chic, tu t'es trompé, du coup on sait exactement le point que t'as pas compris dans la leçon, on va pouvoir le reprendre.
Je vois très bien en fait, c'est ce plan B, j'aime beaucoup cette idée, d'ailleurs je le répète souvent moi à ma fille, ça n'est pas grave de se tromper. On a tous, toute notre vie, on se trompe. Et toute notre vie, souvent, on a raison aussi. Et voilà, et la vie n'est faite que de ça.
On dit que le meilleur joueur de basket, c'est certainement celui qu'on a mis le plus à côté du panier. Qui a mis le plus de ballons à côté du panier.
Alors ça, je ne suis pas sûr, mais bon. Mais bon, on pourra en discuter, mais dans une autre émission.
Oui.
Certains parents sont intrusifs dans la vie de leurs enfants. Ils considèrent que c'est à eux de choisir pour eux. Comment expliquez-vous cette attitude et est-ce que vous considérez qu'elle est juste? Alors, moi, j'ai ma petite idée dessus, mais j'aimerais vous entendre là-dessus.
Alors, aujourd'hui, moins qu'avant quand même, les parents sont beaucoup plus dans le laisser-faire,
oui,
laisser les enfants choisir comme s'ils étaient déjà grands. Bon, alors, être intrusif, ça dépend à quel niveau. En même temps, on est là pour les conseiller. Moi, j'ai par exemple des jeunes qui viennent me dire « Si mes parents avaient insisté un peu, j'aurais fait de meilleures études, mais ils m'ont laissé choisir ». Vous voyez, après coup.
Ouais.
Bon, alors c'est vraiment ça des choses très difficiles. Intrusif, c'est pas un bon mot. Mais par contre, être présent, être accompagnateur, vous voyez,
accompagnateur, les écouter,
enfant,
partager
montrer
avec
les bons et les mauvais côtés. Et puis à la fin, bien sûr, l'accompagner dans son choix, ça dépend de son âge, bien entendu, et ça dépend des risques qu'il prend dans ce choix-là.
J'en reviens à vos bons conseils pour créer la bonne distance, parce que il y a des risques dans les deux attitudes, l'interventionnisme, comme laisser choisir, laisser faire tout à son enfant. il faut quand même toujours être là et échanger avec lui. Comment apprendre à lâcher du lest, trouver la bonne mesure en quelque sorte, quand on est un parent qui justement a plutôt cette fibre un peu stricte, un peu interventionniste?
Mais c'est justement ça, c'est qu'en fait ça commence tôt. C'est dès qu'ils sont enfants qu'on leur apprend à être autonomes, qu'on leur met en main les outils qui vont leur servir petit à petit à grandir et à pouvoir prendre une distance. On n'est pas dans une société si dangereuse que ça, si difficile que ça. Elle l'est même beaucoup moins qu'elle ne l'était, mais les parents sont de plus en plus anxieux et de plus en plus protecteurs parce qu'ils ont cette idée de l'enfant précieux et de la société dangereuse.
Mmh. C'est un problème de confiance en eux.
Oui, si on apprend petit à petit à l'enfant à faire des choses par lui-même, à dépasser les erreurs, à recommencer, à trouver son chemin, et finalement, en fait, il grandit en même temps que les parents, si vous voulez, voyez.
Oui.
Et les parents, petit à petit, peuvent le laisser faire ses choix, mais évidemment en discutant ensemble. Hein. Quand l'enfant vous dit « Maman, je vais te dire un truc, mais tu dis oui. Je vais te demander un truc, mais tu dis oui. » Bon, c'est évident que non, je te dis
bah
pas
non,
oui si tu
non.
dis pas le truc avant. Faut d'abord qu'on en discute, bien sûr.
Si, pour les parents qui ont un ado en ce moment, qui part à la dérive, par exemple, parce que ils sont nombreux à 14, 15 ans, à commencer à vous parler comme si vous n'y connaissiez rien et que ça veut tout, hein, qu'ils ont tout compris, et que cet ado a des fréquentations, de mauvaises fréquentations en tout cas, et que en tout cas des fréquentations qu'on ne voit pas d'un bon œil. Quel conseil vous donneriez à ces parents qui vivent cette période avec leur ado? Quel libre arbitre faut-il laisser dans ce cas-là?
Il n'y a pas une bonne réponse. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on le voit souvent, et surtout on le voit de plus en plus tôt. On voit maintenant des parents perdus avec des enfants comme ça qui ont 10, 11 ans, 12 ans. Hein. Donc ça commence très tôt, une espèce d'insolence, une espèce de mise à distance comme ça, où les parents se sentent perdus. Hein. Alors quoi faire? Il n'y a évidemment pas une bonne réponse. Quand vous dites, par exemple, vous prenez l'exemple de ces copains qui auraient une mauvaise influence sur eux, il faut d'abord en être sûr. Si vraiment c'est des copains qui ont une mauvaise influence, il faut le changer de bain.
Ouais,
voilà, il faut aller dans un autre établissement. Il n'y a pas de question. Mais est-ce que c'est notre image de ces copains, ou est-ce qu'en fait, ils ne sont pas si mal que ça, et ils l'aident, et ils se sentent bien avec eux, et ça lui donne confiance en lui? Vous voyez, c'est un environnement dans lequel il grandit en sécurité. C'est vraiment difficile de porter un jugement.
Complètement,
difficile.
Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de positionnement précis, puisque en plus, chaque ado est différent de l'autre. Et ne pas oublier que parents, ça n'est pas facile non plus. On évoquait le problème de confiance en soi quand on est parent. Restez en ligne avec nous, en tout cas Anne Bacchus. Je rappelle que vous êtes psychologue des familles et auteur du livre « Traitez-les comme des mômes pour une éducation dans le bon sens ». Dans quelques instants, nous accueillerons Hugo. Il a toujours voulu faire une carrière artistique, ce qui n'était pas du goût de son père. Et on va voir que ça a eu une certaine influence sur justement le métier qui est le sien aujourd'hui.
Europe 1. Vous composez le 39-21 pour nous dire si vous décidez pour vos enfants, leurs études, leur fréquentation, quel libre arbitre vous leur laissez. On vous écoute sur Europe 1 jusqu'à 16h. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous vous demandons jusqu'à quel point vous laissez votre enfant choisir pour son avenir, si vous intervenez dans ses choix, libre arbitre total ou pas. Vous nous le dites au 39-21. Les Imagine Dragons sont sur Europe 1 et on écoute Natural. Le groupe de Las Vegas Imagine Dragons avec Natural. Comment ça se passe à la maison avec vos enfants quand il est question de leur choix? Vous avez forcément un droit de regard sur l'orientation qu'il prendra, cet enfant, dans ses études, sur ses activités. Vous nous racontez au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et c'est bien d'avoir un regard sur ce que deviendra son enfant. Mais attention, toujours, de ne pas en faire trop. Dans la première partie de cette émission, d'ailleurs, Anne Bacchus nous parlait de cette distance, de cette bonne distance à établir avec son enfant. On va en parler maintenant avec Hugo. Bonjour Hugo, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Merci Olivier, bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Hugo?
J'ai 23 ans et je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors, vous Hugo, votre père avait une idée assez précise, hein, visiblement, pour votre avenir professionnel. Il vous voyait avocat ou notaire. Pourquoi envisageait-il ce type de carrière pour vous?
Exactement. Donc du coup, je pense que c'était lié au fait que dans ma famille, mes ancêtres, il y a eu pas mal de notaires, d'avocats, etc.
Oui.
Et je pense aussi que c'était un peu le côté prestigieux, sérieux et surtout concret du métier. Voilà, on fait des études, on passe en des CDI. Enfin, c'était un peu plus sûr.
Vous venez de province, sans préciser d'où vous venez exactement, enfin comme vous voulez, mais parce qu'on sait que ces métiers-là, en province, avocat ou notaire sont des métiers. Avant, on était un notable lorsqu'on était notaire ou avocat, ce qui n'est plus obligatoirement le cas aujourd'hui. Mais est-ce que vous venez de province ?
Oui, je viens de province, tout à fait, et je pense que c'est effectivement une des raisons, puisque ma famille habitait aussi en province à l'époque, et du coup, les ancêtres étaient considérés un peu comme des gens nobles par leur métier, justement, avocat ou notaire.
Ouais. Alors, vous, depuis tout petit, vous rêviez de carrément autre chose, hein, puisque ce qui vous passionnait était bien loin des barreaux, des tribunaux, et puis des actes notariaux.
Exactement, c'était plus la paillette. Moi, c'était plus l'artistique, la musique, donc le chant, le spectacle, voilà.
Ouais.
Que dès tout petit, j'étais dans l'organisation de spectacles, je dansais, je chantais avec mes amis, on faisait des courts-métrages, on était vraiment comme ça dans l'artistique.
Ouais.
Et aussi, donc du coup, j'ai suivi une spécialité musique, donc dans l'optique de suivre cette voie-là.
Mmh.
Et c'est au moment où j'en ai parlé avec mon père que ça n'est pas très bien passé.
Alors justement, racontez-moi, comment vous lui avez annoncé, à quel moment et pourquoi ça ne s'est pas très bien passé ?
Alors, je me suis heurté littéralement à un mur, parce que du coup, il m'a dit de redescendre sur Terre, que ça, c'était un rêve d'enfant qu'il va falloir abandonner et faire quelque chose de concret. Donc, je pense qu'il en revenait au notaire et avocat.
Mmh.
Et donc, du coup, il me disait, Hugo, t'as 18 ans, il faut grandir et arrêter de rêver, de vouloir être le prochain Justin Bieber ou des choses comme ça.
Mmh.
Et donc, du coup, je lui expliquais que les métiers de la musique et de l'artistique, c'est pas nécessairement être une pop star, mais qu'il y a aussi les métiers de l'ombre, donc auteur, compositeur, voilà.
Mmh.
Et malgré toutes ces explications, pour lui, c'était pas sûr. Il m'a dit, il en est hors de question.
Il ne connaissait pas, ça lui faisait peur, hein, ce milieu-là, sans doute, non ?
Exactement. Je pense qu'il me projetait un petit peu ses peurs, parce qu'il aime bien quand c'est carré, cartésien. Il faut que ce soit classique.
Alors, vous voyez, vous avez 23 ans. Moi, j'en ai un peu plus que vous. Et je me rappelle m'être heurté à la même chose. Mais lorsque j'ai annoncé à mon père, il y a plus de 30 ans hein, de ça, que je voulais faire de la télévision, en tout cas que je voulais être dans le milieu des médias. Hein, et il avait eu cette même réaction de dire « mais ça c'est un monde, ça, c'est pas pour toi, il faut que tu ailles vers quelque chose de plus classique ». C'est un peu ça que vous avez ressenti ?
C'est exactement ça. Pour lui, c'était inaccessible. C'était les gens qui avaient déjà été baignés dans le milieu, dont un parent était dans les médias ou alors un parent dans la musique. Enfin, c'était, il fallait, en tout cas, pour passer à la télé ou pour être ou pour même travailler dans les médias, avoir quelqu'un qui avait déjà un pied dedans.
Mmh. Alors finalement, vous avez trouvé un terrain d'entente entre vous et votre père, puisque vous êtes devenu journaliste. Est-ce que vous considérez que c'est une sorte de compromis, de bon compromis d'être devenu journaliste aujourd'hui ?
Alors, je dirais que c'est un compromis plus pour mon père, parce que moi, enfin, encore une fois, enfant, c'était ma deuxième passion, donc c'était ma deuxième carte.
Ouais.
Donc, à 11 ans, j'étais déjà en train de rédiger en CM1 des articles à l'école. Je m'exprimais aussi à travers ça, donc je réalisais des petits reportages avec mes amis. Enfin, on faisait des courts-métrages, mais aussi des reportages. Et donc, je passais beaucoup de temps, et c'était aussi une deuxième passion, donc je me suis dit, pourquoi pas lui proposer ça aussi.
Alors, qu'est-ce que vous diriez à des parents qui veulent absolument décider de l'avenir de leur enfant aujourd'hui ?
Alors moi, ce que je dirais à leurs parents, c'est de ne pas projeter leurs envies, leurs rêves ou même leurs regrets sur leur enfant, tout simplement parce que l'enfant, il sera différent d'eux et il aspirera sûrement à d'autres choses. Et en fait, il s'agira de la vie de l'enfant et non pas de la vie du parent par procuration.
Mmh.
Donc voilà, donc je pense que c'est important de laisser une certaine liberté à l'enfant et surtout d'en parler. Voilà.
Anne Bacchus, lorsqu'on écoute Hugo, on est dans la question de l'avenir de l'enfant et de cet avenir qu'il a le droit de choisir, hein, cet enfant. Et comment se comporter face justement aux projections de nos enfants ?
Alors, ce que dit Hugo est d'autant plus vrai dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que le monde change tellement vite que parfois les parents projettent sur leur enfant quelque chose de leur propre monde, de leur propre histoire, alors que les métiers de demain, on ne les connaît même pas. Donc, tout change tellement vite que vraiment, on doit écouter nos enfants et surtout écouter leur passion. Surtout écouter leur passion, leur enthousiasme. Il y a tellement d'enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire que quand on a la chance d'avoir un enfant qui a une passion et un désir fort, évidemment qu'on l'accompagne là-dedans, autant qu'on le peut, oui, bien sûr.
Ah, ça me fait penser à ma jeunesse, tout ça. Et je me souviens que finalement, entre ma mère qui me bottait les fesses pour que j'aille jusqu'au bac et que je l'ai, et que heureusement qu'elle a été là pour que j'obtienne ce bac, et mon père qui était plutôt un peu à la cool, mais qui croyait plutôt en moi sur les d'autres choses, eh bien, il faut trouver un bon compromis que vous avez fini par trouver, Hugo. Hein. Merci beaucoup pour votre témoignage, Hugo, et puis bon courage, parce que vous ne faites que débuter dans ce beau métier que vous avez choisi, qui est le métier de journaliste. Dans quelques instants, nous accueillerons Torquia. Elle laisse le choix à ses enfants de s'exprimer, mais pas de décider. C'est un concept.
Ah oui, c'est vrai. Et Antoine, 33 ans, témoigne au 39-21. Je viens d'un milieu bourgeois. On me demandait de faire du violon, d'avoir des amis comme moi, de faire de grandes études. J'en ai décidé autrement. Je suis plus heureux, mais je suis fâché avec mes parents.
Europe 1.
Vous aussi, vous n'avez pas forcément fait ce que vous vouliez faire. Vos parents ont décidé pour vous comme Hugo, ou vous vous êtes rebellé comme Antoine. Vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Il a le blues, notre businessman Claude Dubois, sur la scène de Starmania, qui aurait voulu être un artiste. Votre enfant veut être musicien, footballeur, explorateur. Vous le laissez choisir, vous êtes plutôt interventionniste. 39-21 pour discuter avec Olivier Delacroix.
Et justement, nous allons en parler avec Torquia, que nous accueillons sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Torquia.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Torquia?
Alors, je vous appelle de la Marne, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants,
oui.
2 préadolescents et un petit de 6 ans.
Alors, vos deux garçons, hein, vos deux préadolescents ont 13 et 12 ans, hein, je crois.
Oui, tout à fait.
Donc, le petit 6 ans. Trois garçons?
Oui.
D'accord. Vous dites que depuis tout petit, alors là, je parle pour les deux préadolescents, vous leur avez laissé le choix de s'exprimer, mais pas de décider. Qu'entendez-vous par là?
En fait, depuis leur petit âge, en fait, on discute énormément depuis qu'ils sont petits. Hein.
Ouais.
On les écoute. Des fois même quand on n'a pas la même vision des choses, même si on n'est pas d'accord ou quoi ou qu'est-ce, on discute énormément, mais on leur laisse. Pardon. Non, on ne leur laisse pas le choix de décider, de prendre les décisions importantes.
Mmh.
Je vois par exemple celui qui a 13 ans, il a eu 13 ans avant-hier.
Oui.
Il a toujours voulu faire du foot,
oui.
Sachant que nous, c'était peu importe le foot ou le tennis ou quoi ou qu'est-ce, mais il a toujours voulu faire sport-études.
Oui. Il veut devenir professionnel?
Tout à fait.
D'accord.
Il fait du foot et c'est un gardien de foot. Il a été sélectionné, il a été repéré et tout.
Oui.
Et monsieur, son avenir, on va dire entre parenthèses, il est tracé. Il nous a dit toujours, maman, papa, je voudrais faire lycée professionnel, études du sport. Il sait maintenant quel lycée il veut y aller, il veut faire. Il sait quelle université il doit s'inscrire. Et puis... en fait, nous, on n'a qu'à le suivre parce qu'il a pris la bonne décision.
Mmh. Mais justement,
c'est lui qui a voulu déjà.
Mais justement, comment vous le vivez ça? Parce que cet enfant, s'il est réellement bon au foot, comme il semble l'être, puisque en plus dans la Marne, hein, y en a des gamins qui font du football. Donc je peux vous dire que s'il a été repéré et déjà donc sélectionné dans des équipes donc de la Ligue, hein, sans doute, ou de la Fédération française de football, ça veut dire qu'il
tout
est bon. Vous êtes tenté de l'écouter ou ça vous fait peur ce monde-là? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants et ensuite d'adolescents donc qui restent sur le côté dans ce milieu du sport de haut niveau.
De toute façon, nous, on a discuté longuement. Il sait, il a très bien compris le principe de son choix.
Mmh.
Si les études suivent le sport, nous, on n'a rien à dire.
Mmh.
Donc il travaille très bien à l'école et pour le moment il travaille très très bien à l'école. On a que des très très bons retours. Les professeurs sont très très satisfaits de lui et de son travail. Tant qu'il suit sa scolarisation le plus normalement du monde et il fait des efforts et tout, nous on n'a qu'à suivre son choix. Sachant qu'il sait aussi que s'il fait du sport, il faut minimum avoir un bon niveau.
Mmh.
Son objectif pour le moment, son objectif, c'est avoir le bac,
oui.
faire des études supérieures en sport,
oui.
et puis après, on verra. On a parlé de tout et de n'importe quoi. Je lui ai dit, imagine un jour comme ça, tu vas te blesser et tout, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, si je ne pourrais pas jouer, je ferai par exemple professeur de lycée, entraîneur. Alors, je ferai administratif sportif, c'est de suite. On est ouvert à toute discussion. Même si, par exemple, moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse d'autres études ou pas forcément dans le sport, mais c'est sa volonté. Et si ça lui plaît, moi, je n'ai qu'à suivre. L'essentiel, mes enfants aient un bon avenir et tout.
Enfin, la description que vous me faites de cet enfant, c'est qu'il a quand même bien la tête sur les épaules pour 13 ans.
À son âge, oui, tout à fait. Et franchement, c'est pour ça qu'on le soutient. Parce qu'on voit qu'il a déjà une vision très loin de l'avenir. Il sait qu'est-ce qu'il veut et il sait où est-ce qu'il va. C'est le plus important.
Allez-y.
Contraire de son petit frère qui fait maintenant du tennis. Il va avoir 12 ans bientôt.
Oui.
Lui, il est entre... entre deux, en fait, il joue très très bien le tennis, il est bien avancé et tout, il a de très très bons résultats, mais il n'est pas forcément, il ne veut pas prendre le même chemin que son frère. Par contre, lui, il penche plus pour tout ce qui est scientifique, tout ce qui voudrait avoir le bac et faire des études en médecine, plus tard pour faire chirurgien. Mais le tennis, il n'est pas très très...
des visions de professionnel. En tout cas, vous avez quand même deux garçons là, on sent que vous pouvez leur faire confiance quand même, Torquia, parce que pour deux garçons 12 ans et 13 ans, ils ont déjà un plan de carrière. Enfin, moi, ça m'épate, parce que je peux vous dire que je me souviens quand j'avais 12 ans, mais mon plan de carrière, il s'arrêtait à 17h, le pain au chocolat, et retrouver les copains sur la place du village. Et je n'avais aucun. Et peut-être, est-ce que ça traduit aussi, on l'évoquait avec Patrice au début de cette émission, et avec Anne Bacchus un peu, c'est que les enfants ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'à 12, 13 ans, aujourd'hui, finalement, ils ne sont pas obligés de réfléchir plus tôt et de se projeter plus tôt dans ce qu'ils seront plus tard adultes?
Je suis tout à fait d'accord dans le sens où, moi j'ai 40 ans, avant on n'avait pas le choix de beaucoup d'options, on n'avait pas un bon suivi de scolarisation. Et maintenant, ce que je trouve dommage, c'est qu'on laisse les enfants aller jusqu'au lycée pour les orienter ou par exemple les laisser à la dernière minute pour choisir. Mais c'est le reflet d'une réalité où les enfants maintenant ils sont plus attirés vers la technologie, les smartphones, mais tout ce qui est superficiel que le vrai avenir. Moi j'ai toujours eu peur du fait que mon gamin il va arriver au lycée par exemple ou en troisième, il va me dire maman je sais pas qu'est-ce que je veux faire, maman je sais pas. Moi et papa on leur avait toujours dit on a notre bac tous les deux, on est des universitaires, tous les deux, moi et papa. Lui, c'est un responsable dans une usine. Moi, je viens de me reconvertir carrément dans un autre domaine. Je suis en formation et tout, je viens d'avoir mon diplôme. Mais je leur ai toujours dit, si vous arriverez un jour à avoir un travail, un salaire à la fin du mois où vous allez pouvoir payer vos factures et avoir un toit sur la tête, c'est le plus important. Avoir un bagage, le minimum, maintenant, c'est même pas le BEP ou je ne sais pas quoi, c'est minimum le bac. Plus 1, plus 2.
Vous avez tout à fait raison.
En
tout cas, en vous écoutant, Torquia, on s'aperçoit que si ces deux petits bonhommes de 12 et 13 ans, on n'a pas parlé de celui de 6, ça sera dans une prochaine émission, mais en tout cas, si ces deux garçons de 12 et 13 ans sont aussi bien déjà équilibrés et qu'ils ont déjà un plan de carrière comme ça, on sent aussi à travers tout ce que vous nous racontez, c'est que c'est aussi grâce à vous, grâce à la distance que vous avez su instaurer, et puis l'échange, j'ai l'impression que vous avez beaucoup parlé avec vos enfants et qu'ils se sont aussi inspirés du sérieux de l'éducation que vous aviez reçue et puis des études que vous aviez fait. Donc merci mille fois d'avoir participé à cette émission cet après-midi. Merci pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous accueillerons Soufiane qui a une fille de 14 ans et Soufiane, elle, a décidé de ne pas du tout se mêler de la vie de sa fille.
Éric, à 24 ans, il témoigne au 39-21. Éric nous a appelé de Lyon. Mon père a toujours été un grand sportif, un supporter déchaîné. Ah bah oui, forcément, à Lyon, terre de football. Oui. Avec mes frères et sœurs, il n'était pas envisageable pour lui qu'on ne fasse pas de sport. Et à haut niveau, j'ai fait du foot. Il a choisi pour moi, c'est vrai, mais j'ai adoré partager cette passion avec lui.
Europe 1.
Venez-vous aussi nous raconter comment ça se passe à la maison. Offrez-vous à votre enfant la liberté de choisir ses activités, ses études, son avenir. 39-21. Tu feras du violon plutôt que du football, ce sera allemand première langue et non anglais, on connaît tous ça. Vous aiguillez fortement vos enfants dans leur choix, voire vous décidez tout court pour eux, ou au contraire votre seul mot d'ordre c'est autonomie. 39-21 pour nous raconter, à tout de suite avec Olivier Delacroix et on écoute Jérémy Frérot, Tu donnes sur Europe 1. Jérémy Frérot sur Europe 1 avec Tu donnes, jusqu'à quel point décidez-vous pour vos enfants? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous accueillons maintenant Soufiane sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Soufiane, comment allez-vous?
Bonjour, ça va et vous?
Ça va très bien. Merci de nous raconter votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1, Soufiane. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez une ado de 14 ans et que, voilà, racontez-moi un peu quel lien vous avez avec elle, comment vous respectez en fait sa liberté, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez un papa voilà, qui faisait confiance et qui respectait totalement l'univers de sa fille.
Tout à fait, au fait, j'ai une fille de presque 14 ans, bientôt en juillet,
oui.
Et au fait, c'est pas que j'ai pas envie de lui faire ce qu'on m'a fait, hein, parce que c'est ridicule, je le fais mais d'une autre façon, comme j'ai dit à votre collègue, je vous donne un simple exemple, elle était autonome, par exemple à 6 ans, à 6-7 ans, elle se lavait toute seule, elle prenait sa douche, elle séchait ses cheveux,
oui.
Elle se mettait en pyjama à 6 ans. Même pas, peut-être 5-6 ans, elle faisait tout toute seule. Déjà, je l'ai habituée à l'autonomie, à ranger sa chambre, et aujourd'hui, ça se passe bien. Et là, je vois que l'adolescence arrive, elle commence à grandir, et elle écoute des musiques de reggae, tout ça, alors on met dans sa voiture ces musiques-là, et,
ouais.
Et par exemple, parlant sur la cigarette, c'est ce que je l'ai dit au standard, comme quoi moi, ma maman sentait mes mains. Mmh. Quand je rentrais le soir pour savoir si ça sentait pas la cigarette.
Du coup,
moi j'étais jeune, comme ma fille,
ouais.
Elle arrivait à sentir, elle dit, ah t'as fumé, je disais non, si ça sent.
Ouais.
Et après j'ai trouvé une astuce, j'avais caché une petite bouteille de Javel dans l'immeuble où on habitait et je mettais au bout des doigts un peu de Javel et je rentrais tout content et au fait ma mère elle savait que j'ai fumé parce que ça sentait l'eau de Javel. En fait ouais. Je masquais l'odeur. Vous voyez, c'est ridicule.
Et justement, est-ce que l'éducation, cette confiance que vous accordez, cette distance que vous avez installée entre vous et votre fille, elle correspond à une éducation trop stricte que vous-même vous avez reçue quand vous étiez jeune?
Je vais pas dire trop strict, mais strict. Il fallait, voilà, il y avait des interdits et il y avait des mais bon, même quand on est ado, on aime bien aller vers l'interdit. Quand on nous dit qu'il faut pas fumer, c'est là qu'on va fumer. Quand on nous dit qu'il faut pas faire ci, qu'il faut pas sortir, il faut pas fréquenter telle ou telle personne au collège parce que, voilà, elle est mal réputée, c'est là qu'on va y aller.
Bien sûr.
On veut. En fait, quand on fait ça, c'est qu'on pousse nos enfants à le faire, au fait.
La meilleure manière de provoquer l'inverse de ce qu'on veut quand on est parent, c'est d'interdire un enfant. Oui.
Voilà. Mmh. Et du coup, ma fille, je lui dis, si un jour tu as envie de fumer, tu m'en parles. Tu me le dis, je préfère que ce soit moi. On va ensemble, t'achètes le paquet que tu veux. Mais c'est dur de parler comme ça à son
bien
enfant.
Bien sûr, hein. Bien sûr.
C'est moi qui le paye. Tu fumeras devant moi, tu vas tousser si tu vas aimer ou pas. Et je vais te surveiller juste... Parce que faut pas que tu fumes beaucoup, faut pas fumer tout le temps.
Bon, en même temps,
Soufiane, après,
on parle des cigarettes là, mais il y a quand même plus grave que les cigarettes. Moi, je sais que je suis comme vous, hein. Je suis le papa d'une ado de 14 ans. C'est vrai que voilà, je peux de temps en temps avoir des angoisses qui me traversent, parce que une fille, c'est différent. Puis c'est surtout, je crois, à 14 ans, beaucoup plus malin qu'un garçon. Mais ça, bon, Omblin, vous en pensez quoi?
Je suis totalement d'accord.
Donc du coup, en fait, je sais que vous êtes en garde alternée et que vous avez dit à l'une de mes collaboratrices justement que vous ne mettiez pas un pied dans la chambre de votre enfant, que vous respectiez, que jamais vous n'inspectiez quoi que ce soit, que c'était la confiance totale. Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire que cet enfant, elle vous inspire une confiance incroyable quand même.
J'ose pas rentrer dans sa chambre parce que je l'ai dit, moi par exemple, on me fouillait mes poches. Voilà, ma maman me fouillait les poches quand des fois, voilà, j'ai laissé mon pantalon, ma veste, elle fouillait dans mes poches et voilà, des fois elle trouvait des choses quand j'avais 17 ans, 18 ans, et Et voilà, après, j'étais mal, il fallait que je me planque, et après, elle va le dire à mon père, et c'était tout un truc, hein, j'étais, voilà, il fallait que, c'était pas facile pour, après, pour gérer tout ça. Et moi, j'ai pas envie, au contraire, je préfère en parler à ma fille, et lui dire, voilà, moi, je tolère, mais à des limites, bien sûr, hein, je veux pas qu'elle aille dans tous les sens.
Et justement, mais, vous semblez
faut
beaucoup,
en parler.
Vous en parlez, et juste avant qu'on se quitte, j'aimerais que vous me disiez, ça marche, comment elle est, cette petite, elle vous rend bien, elle travaille bien à l'école,
Oui, ça va, je vais pas me plaindre, ça va. Bon, elle a un petit peu le comportement, bon, elle fait comme tous les jeunes, hein, elle est obligée de faire comme eux, sinon on va la mettre de côté, mais sinon au niveau travail et tout, j'ai pas à me plaindre.
Bah écoutez,
j'ai pas à me plaindre.
Félicitations Soufiane, et mille merci pour votre témoignage lumineux cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci pour votre appel et pour votre témoignage. Merci aussi à Patrice, merci à Hugo, à Torquia de nous avoir appelé. Merci à Anne Bacchus, hein, pour ses analyses et ses éclairages. Je rappelle qu'Anne Bacchus est l'auteur du livre « Traitez-les comme des mômes » aux éditions Marabout. Alors, rappelons-le, hein, qu'être parent, c'est une aventure de tous les instants. C'est aussi beaucoup d'angoisse. Parfois, cette inquiétude pousse les parents à être trop regardants sur les choix de leurs enfants. Trouver le juste milieu, faire confiance, ne pas oublier que nos enfants ne nous appartiennent pas. Surtout, c'est vraiment important et ce n'est pas toujours facile, mais quelle importance de savoir qu'ils ne nous appartiennent pas. Communiquer, parler comme vient de nous le dire Soufiane, ça aide à lâcher du lest, à trouver la bonne distance. Être à sa place de parent, c'est aussi laisser son enfant avoir son propre libre arbitre, s'exprimer à travers ses choix. On peut continuer à en parler et à échanger.
Oui, vous continuez d'échanger autant que vous le souhaitez, hein, sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, sur ce sujet, bien sûr, le libre arbitre pour vos enfants, mais aussi tous les autres sujets. Première vie sur Europe 1, évidemment, et la seconde sur les réseaux sociaux, grâce à vous. Merci d'ailleurs de nous rejoindre de plus en plus nombreux. Et puis Instagram, Olivier Delacroix, officiel, évidemment.
N'hésitez pas. Jusqu'au 23 mars, ce sont les journées de la schizophrénie, un trouble mental souvent mal perçu. Alors, comment le déstigmatiser? Ce sera notre sujet de demain à partir de 15h. Si vous êtes atteint de troubles de la schizophrénie, si un membre de votre entourage, pardon, l'est, si vous militez pour déstigmatiser cette maladie qu'est la schizophrénie, appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ambline, j'étais comme d'habitude ravi de passer cette heure-là
avec
vous. Et puis dans quelques instants, comme d'habitude, à 16h, vous allez retrouver Karl Zéro. On va jouer et ça va pas mal batailler chez toi cet après-midi, Karl.
Eh oui, mon cher Olivier, figure-toi que nous avons un match mixte. Comme dit Anissa, ça va être fou, car quand c'est mixte, c'est fou. Nous aurons d'un côté une femme, donc Laura Domange, et de l'autre un homme, Daniel Picouli.
Eh bien, ça va batailler, c'est ce qu'on disait, parce que c'est deux invités, Laura Domange, Daniel Picouli, j'essaie de m'imaginer, mais ça risque d'être assez explosif chez Karl Zéro, que vous retrouvez dès 16h. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée dans ce beau temps qui inonde, je crois, toute la France aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, je vous dis à demain, 15h. Au revoir.